Et il leur avait été annoncé qu'ils seraient remplis du Saint-Esprit et tous d'un commun accord. Et comme ça a été dit à l'instant, bien imparfaits étaient-ils, ils étaient, mais voilà que le Saint-Esprit, eh bien, le fait de dire qu'ils sont imparfaits, ça ne justifie en rien. Ça ne veut pas dire, t'as entendu ce que le pasteur a dit, donc il faut te contenter de ce que je sois imparfait. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible, elle dit, recherchez ce qui est bon, agréable et parfait. Si nous savons que nous avons des lacunes dans certains domaines, traits de caractère ou ceci ou cela, on ne doit pas se dire, c'est comme ça, je suis ni comme ça, puis... Ça, c'est dans le mépris. Nous sommes appelés à grandir et à porter du fruit de l'esprit. Et donc, c'était un privilège pour tout ce rassemblement d'avoir entendu de recevoir le baptême du Saint-Esprit et tous ensemble d'un commun accord. Eh bien, l'Esprit de Dieu s'est posé sur eux et ils se mirent à parler d'autres langues. Je tiens à rappeler ici, frères et sœurs, que c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Parler d'autres langues, ça ne veut pas dire que c'était une langue que l'on a apprise. Et par exemple, si vous êtes brillant en anglais et que vous priez en anglais, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est une langue apprise. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le miracle de Dieu. C'est une langue que vous parlez selon ce que l'Esprit veut. Et je tiens aussi à préciser que parfois, même cette langue peut changer d'une langue à une autre selon le plaisir et la volonté du Saint-Esprit. Alors, quel privilège d'être baptisé du Saint-Esprit. La Bible nous dit que dans 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Bien des gens peuvent se gargariser d'avoir des connaissances. C'est bien d'avoir des connaissances. Hein. Il faut des fois, c'est voilà. Moi, il m'est arrivé d'appeler un docteur quand je sais que, par exemple, quelqu'un va aux urgences. J'appelle. Il m'est arrivé d'appeler ce docteur et je dis tiens, il y a un tel qui est parti à l'hôpital. C'est une connaissance. Voilà, donc c'est bien d'avoir des connaissances. Si demain vous avez un souci ou quoi que ce soit, c'est bien de connaître des gens, voilà. Mais ne pas s'appuyer sur ces gens. Et de se rendre compte ici que d'être baptisé du Saint-Esprit, de parler en langue, ça nous donne de parler à Dieu. C'est notre esprit qui parle à Dieu. Et c'est un véritable privilège. Est-ce que nous nous rendons compte, frères et sœurs, que même ceux qui ne sont pas baptisés du baptême du Saint-Esprit, étant présents ici, ayant reçu une sainte convocation de la part de Dieu, de savoir que celui qui a créé le ciel et la terre, c'est celui à qui nous avons élevé notre voix ce matin, celui que nous avons adoré, celui que nous bénissons, et celui qui veut habiter dans notre cœur. Et quand on accepte Jésus, et je tiens à préciser que les quatre ados que j'ai vus hier matin, étaient baptisés même du baptême du Saint-Esprit. Et c'est un privilège de savoir que Dieu habite en nous, que nous parlons à Dieu, sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Et que Dieu nous comprend. La Bible dit aussi que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 4. Il est combien de fois il est arrivé qu'on rentre dans sa chambre, peu importe l'endroit où vous avez souvent votre temps de privilège d'être dans la relation avec Dieu, dans votre temps de culte. Et on peut rentrer dans ce lieu et les soucis, les tracas, les inquiétudes font qu'on n'a pas forcément toujours le désir de louer, de bénir le Seigneur parce que notre esprit est pris par d'autres choses. Et au moment où on parle en langue, on ne sait pas ce qu'on dit, puisque nous parlons à Dieu, c'est notre esprit qui parle à Dieu, et ce n'est pas notre intelligence, eh bien nous sommes renouvelés, régénérés. Le baptême du Saint-Esprit donne du courage. pas du courage pour régler problèmes, enfin, certains problèmes, mais donne du courage spirituel. Acte 2, verset 14. Alors Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte leur parla en ces termes. « Hommes, juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres, etc. etc. » Ce même Pierre, je tiens à rappeler que Pierre était un homme qui, lorsqu'il a renié Jésus, il n'a pas renié Jésus parce qu'il voulait renier Jésus. En fait, il n'a même pas renié Jésus. Il a, enfin oui, en quelque sorte, mais parce que c'était la peur qui motivait Pierre. Et c'est uniquement par la peur. C'est la différence avec Judas Iscariote qui, lui, a renié Jésus par cupidité. Mais Pierre, lui, eh bien, il, par la peur d'être mis devant le banc des accusés et de voir peut-être même d'être lapidé ou je ne sais quoi encore, ou même d'être crucifié avec Jésus, eh bien, a préféré mentir. Et là, eh bien, l'apôtre Pierre va déclarer devant tous, après avoir été rempli du Saint-Esprit, va régler les choses devant l'auditoire. Le Saint-Esprit donne de l'autorité spirituelle. Acte 2, 23. Vous l'avez tué en le faisant crucifier par les hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Vous savez qu'il faut avoir beaucoup de courage pour s'opposer à la religion. Vous savez que dans notre monde, des gens se donnent bonne conscience. Il y a deux raisons pour lesquelles les gens se donnent bonne conscience pour tuer leur prochain, souvent. Pour la politique et la religion. Parce que tu ne penses pas comme moi, alors je vais te tuer. Et je te tue au nom de mon Dieu, quel qu'il soit d'ailleurs. Et l'apôtre Pierre, donc, eh bien, cette détermination, cette fougue, ce courage, cette volonté de s'opposer, pas de s'opposer, mais en fait de rétablir la vérité, de rétablir les choses. Pas par rébellion, pas par opposition. Eux, les autres, voyaient comme de l'opposition. Mais lui, il disait les choses pour dire, voilà, vous qui l'avez crucifié. Le baptême du Saint-Esprit donne de la force pour tenir bon dans les temps de persécution. Acte 4, versets 29 à 31. Voilà. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole, ta parole, avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Hier, lorsque j'ai parlé avec les quatre candidates pour le baptême, en fait, je me suis pris différemment de ce que je fais habituellement. Habituellement, je prends un petit livret, je m'appuie dessus, voilà. Mais cette fois-ci, je me suis pris différemment. Et j'aurais posé la question, avant de leur poser la question, aujourd'hui, vous savez qu'être chrétien, en quelques mots, c'est comme ça que j'ai dit les choses, il faut avoir beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Puisque dans le monde, je crois que ça, dans les entours de 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. S'engager dans les eaux du baptême, frères et sœurs, il faut avoir du courage, mais il faut avoir compris pourquoi on veut s'engager. S'engager avec Dieu, c'est s'engager à la vie et à la mort. Lorsque on voit des frères, des sœurs qui vivent la persécution, alors on doit relativiser certaines choses dans notre vie. Désolé de vous le dire, mais désolé, oui, non. Parfois même, c'est peut-être méprisant de notre part lorsqu'on se plaint de certaines choses. Quand on fait un parallèle avec ceux qui vivent des choses, à l'heure où je vous parle, où nous parlons entre nous, là, il y a des gens qui sont en prison pour leur foi. Il y a des gens qui sont menacés. Des gens qui ont perdu leur emploi. Des gens qui sont torturés moralement, physiquement. Des gens qui pleurent parce qu'ils ont perdu un être cher à cause de leur foi. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas forcément, n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne de pouvoir nous opposer, de dire oui quand il faut dire oui, non quand il faut dire non. Le baptême du Saint-Esprit nous donne, eh bien, d'avoir de l'autorité spirituelle. Ce n'est pas pour faire comme tous les autres. Non, les autres, ils sont baptisés, alors je veux le faire aussi, Seigneur. Vous pourrez toujours attendre, excusez de vous le dire ainsi, mais vous ne le recevrez pas si vous n'avez pas, si votre motivation n'est pas noble. Il faut accepter de dire, Seigneur, je veux être rempli de la présence du Saint-Esprit, de marcher avec toi, je veux être... Voilà, c'est avoir ce cœur disponible, disposé, un cœur qui soit capable d'accepter d'être labouré pour pouvoir ensemencer après. Le baptême du Saint-Esprit est réservé à tous ceux et toutes celles qui un jour ont donné leur cœur à Dieu. Pas parce qu'ils sont toujours, parce qu'ils sont passés par, le baptême, par les eaux du baptême. Là, je vous ai donné quatre cas et ce n'est pas des cas isolés. En fait, c'est une question de cœur. Oui, je veux m'engager. Alors, des fois, il y a des gens qui sont baptisés du baptême du Saint-Esprit avant même d'avoir été baptisés par immersion. Mais c'est parce que c'est une décision du cœur. Après, c'est de la faute du pasteur. C'est lui qui donne les dates. Sinon, les petites, il y a longtemps, elles seraient baptisées. Enfin, les petits, ils seraient baptisés. Les petits, qui sont ados, hein, on ne baptise pas les enfants, vous le savez. Mais c'est à cause du pasteur. Voilà. Il assume, il assure, il assume. Voilà. Mais voyez-vous, frères et sœurs, recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui vous donnera de pouvoir continuer à marcher avec Dieu. Je disais aux jeunes hier, en quelques mots aujourd'hui, des fois Dieu ne vous parlera pas. Des fois, Dieu vous laissera comme ça, sans même vous parler. Pas parce que Dieu n'agit pas, mais parce que des fois, ça arrive, que Dieu ne parle pas, que Dieu ne réponde pas comme on le souhaiterait. Et le fait d'avoir été baptisé du baptême du Saint-Esprit, ça vous donne d'avoir cette force, cette autorité, combien même l'adversaire pourrait susurrer à votre oreille, « Es-tu sûr ? Es-tu convaincu ? Et si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu es sauvé ?» Ça vous donne de pouvoir dire « Il est écrit ». Avoir l'autorité. L'autorité, pas sur les autres. Il n'est pas question de faire de l'autoritarisme. C'est de l'autorité spirituelle pour soi-même. Non seulement le baptême du Saint-Esprit était pour l'Église primitive, mais tout aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous l'avons compris. Acte 2, 39, il nous dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est même écrit à Martigues. Non, ça c'est moi qui le rajoute, vous l'avez compris. Même à Martigues. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas baptisé du baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs? Qu'est-ce qui peut vous retenir? Peut-être que certaines personnes se disent « Mais oh, je vois pas trop l'intérêt. Ça sert à quoi ?» Ça sert à avoir cette autorité, de parler à Dieu, d'avoir cette proximité avec Dieu. Cette intimité tout à fait privilégiée, personnelle avec Dieu. Ça ne fait pas de vous des super chrétiens. Ça ne fera pas de vous des chrétiens au-dessus des autres, en disant, moi je suis, toi. Si c'est comme ça que vous pensez, vous ne serez pas baptisé du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas donné que pour vous, pour vous garder pour vous. C'est pour les autres aussi. Je ne connais pas d'arbre fruitier qui ait donné du fruit rien que pour lui. Il le donne à son propriétaire. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à être remplis pour donner aux autres. Nous sommes appelés à être serviteurs de Dieu. Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans une autre version, il est écrit, vous serez de moi, témoin. Ça, c'est l'interlinéaire. Vous serez de moi, témoin. Dans la parole vivante, il est écrit, vous rendre capable d'être mes témoins. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez vu que ça, plus Jésus parle, plus ça s'éloigne. Être témoin à Jérusalem, eh bien, c'est notre foyer. C'est notre foyer. Ce sont ceux avec qui nous vivons, avec qui nous partageons. Et qui sont les témoins de notre vie, ceux qui partagent notre vie. Regardez un homme comme Job, j'ai jamais connu, et vous certainement aussi, enfin j'imagine, des hommes comme Job qui ont vécu autant de souffrances. Que dira sa femme ? En quelques mois, elle dit, tu es intègre, tu marches avec Dieu, voilà. Maudit Dieu et meurt. Que ça s'arrête. Sa femme était témoin que malgré toute l'épreuve qui le submergeait, où Dieu ne parlait pas, Dieu n'a pas envoyé un SMS, un mail, pour dire « tu t'inquiètes pas, tu vas passer par une épreuve, mais je gère ». Tout n'est pas écrit dans la parole, nous le savons. Combien de questions a dû se poser Job en disant mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce que j'ai fait ? D'ailleurs, c'était tellement vrai que même ses amis ont pensé qu'il avait fauté quelque part. De ses amis sont devenus ses accusateurs. Et celle qui était témoin, c'était son épouse. De sa fidélité, malgré l'épreuve, malgré les incompréhensions, malgré l'immense tristesse, et c'est peu dire, la douleur extrême. Vous savez, il y a des douleurs, il y a des déceptions, il y a des larmes, parfois, bien sûr. Il y a des incompréhensions, mais il y a des brisements. Il y a des souffrances qu'on ne peut citer. Tellement elles sont douloureuses. Et personne ne peut vous comprendre dans ces cas-là. Et malgré tout, sa femme voyait en lui, en son mari, un homme fidèle qui continuait à marcher avec Dieu. Et il n'avait jamais vu Dieu, puisqu'il le déclarera plus tard, « Mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. » Pas voir Dieu, parce que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre, mais voir Dieu agir dans de telles circonstances. Et serait bien sot, je mesure mes propos, que quelqu'un dise « Oh, il a perdu ses enfants, c'est pas grave, regarde, il en a eu d'autres. » On ne remplace jamais quelqu'un qui est parti. Les disciples, le jour de la Pentecôte, étaient dans l'attente. Acte 2, versets 1 à 2, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Et tout à coup, au moment où ils attendaient, mais tout à coup, au moment où ils ne s'y attendaient peut-être plus, ils ne savaient pas à quelle heure ça allait arriver. Ils attendaient. Mais il y a cette union. Comme ça a été dit tout à l'heure, certainement que, bien sûr, ils sont à l'image de nous-mêmes, des gens imparfaits, des gens qui luttaient contre ceci, cela, des traits de caractère qu'ils ont ou d'autres choses encore. Et non, Seigneur, je veux te plaire, donne-moi la victoire sur ça. Bon, voilà. Mais tous ensemble, avec leur diversité, dans le même lieu, tout à coup, ils ne se regardaient pas en chien de faïence, en disant, lui de telle communauté, lui de telle tribu, et lui ceci, lui cela. Ah tiens, elle est là, l'autre. Ah, l'autre là-bas, il est encore là. Oh, il n'était pas question de parler comme ça. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Et puis si on est honnête avec soi-même, on se dit, le frère, il a son tempérament, mais est-ce que je suis mieux que lui? Et puis même si j'étais mieux que lui, objectivement parlant, en quoi ça me donne la liberté de dire que le frère, ceci, cela. Il a peut-être des qualités que je n'ai pas. En fait, il n'était même pas question de chercher qui avait raison, qui avait tort dans cette affaire. Ils étaient tous unis d'un commun accord. Peut-être avez-vous reçu quelque chose de la part de Dieu, une promesse qui tarde, à votre goût. Vous vous rappelez de ce passage dans Habacuc, chapitre 2, verset 1er, écoutez bien si vous n'avez pas la Bible. J'étais à mon poste. Déjà, c'est important. Notre poste est dans notre relation avec Dieu. Tous les jours, je dois prendre du temps avec Dieu. Tous les jours, frères et sœurs. Et pas 5 minutes pour me dire, pas un quart d'heure pour dire, ça c'est fait. Prendre du temps, c'est... Peu importe, peut-être que vous avez une demi-heure, une heure, et ne dites pas que vous n'avez pas le temps. En fait, on le trouve, le temps. C'est qu'une question d'organisation. Mais j'étais à mon poste, pas au poste de mon voisin, le mien, à mon poste. Et je me tenais sur la tour. La tour a la faculté de nous donner d'avoir une vision de loin, les hauteurs. Je veillais, c'est super hein, ce qui est écrit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Déjà, cette phrase est étrange. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alors, tu vois ou t'écoutes? Mais en fait, on fait les deux. On fait les deux, frères et sœurs. Dieu ne se trompe pas quand il écrit. Je rappelle que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, je veillais pour voir, oui, mais il n'y a pas de faute, hein. Il n'y a pas d'erreur là. Mais quand on fait attention, on se dit que c'est bizarre. Je vais voir pour entendre. Mais parce que c'est les deux qui vont ensemble. Je vais voir ce que Dieu va faire dans ma vie, ce qu'il va me dire qu'il va faire dans ma vie. Et voilà que je répliquerai après ma plainte. Parce qu'il avait besoin de parler. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. N'écrivez pas les choses, gravez-les. Les promesses que Dieu vous a faites, ne les écrivez pas. Enfin, vous pouvez les écrire, bien sûr. Mais gravez-les sur la table de votre cœur. Parce qu'avec le temps, l'écriture s'efface. Vous avez vu sur les monuments aux morts? C'est gravé. Et c'est écrit dans la gravure, parce que le temps efface ces choses. Gravez ce que Dieu vous a dit, gravez-le sur votre cœur, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, c'est-à-dire que Dieu a déjà prévu la date, c'est ça que ça veut dire. Et elle marche vers son terme, ça veut dire qu'elle est vivante cette prophétie. Et elle ne mentira pas. Ce que Dieu vous a dit, c'est sûr. Ça ne pourra pas manquer d'arriver. Sauf si vous dites à Dieu, je n'ai pas envie de le vivre. Mais elle est déjà fixée à la date, à l'heure précise. C'est extraordinaire. Si elle tarde, à votre goût, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, les disciples, ici, ils attendaient le baptême du Saint-Esprit. Et en fait, ils ont vécu à Habacuc. Ils savaient que ça allait arriver quand? Mais comme Dieu avait dit les choses, ça n'allait pas manquer d'arriver. Donc, ils attendaient. Oh, ça va arriver. Quand? Jésus revient bientôt, non? Ça ne va pas manquer d'arriver. Et sommes-nous prêts au retour de Jésus? Même la religion musulmane attend le retour de Jésus. Le prophète est parti, disent-ils, et il va revenir. Les juifs n'attendent pas le retour de Jésus. Certains, oui, ce qu'on appelle les juifs messianiques, qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie. Mais sinon, les juifs qui ne sont pas messianiques attendent la venue du Messie. Nous attendons le retour de Jésus. Et puis, voici la réalisation de la promesse qui arrive comme un vent impétueux. Joël 2:28. Joël 2:28 est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Tiens donc, les anciens là parmi nous, qui ont les cheveux blancs, qui sont courbés par l'usure du temps, par la fatigue ou parce que ben voilà, la santé n'est plus comme elle était avant, vous n'êtes pas mis au rancard. On vous a peut-être méprisé ici et là, peut-être on vous méprise parce qu'on dit « Oh, c'est les seniors, bon, les vieux, je dis exprès les vieux, hein, comprenez, il n'y a pas du tout de mépris en le disant, c'est volontairement, je le dis. » Mais les vieux, ils ont toute leur place, tout comme les jeunes. Les uns ne vont pas sans les autres. Et il est écrit « Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Mes frères et sœurs, c'est un privilège, vraiment. Je vous assure, vous qui n'êtes pas baptisés du baptême du Saint-Esprit, demandez-le à Dieu. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous serez des témoins, acte 2:24. Il est écrit dans acte 2:24, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, car David dit de lui, etc. etc. » Être baptisé du baptême du Saint-Esprit fait de nous des témoins de la grâce, des témoins vivants de sa grâce. Parfois même sans parler. C'est pas, comment dirais-je, une fiction, c'est pas mystique de dire qu'un chrétien au milieu d'une foule du travail, par exemple, allez, chez ArcelorMittal, tiens, à l'hôpital, chez les dockers, il y a des endroits où c'est plutôt viril. Bon, à l'hôpital, ça va, c'est pas... Mais chez les dockers... Puis dans des entreprises, c'est... Hein? Mais un chrétien qui est au milieu, sans même parler, on ressentira quelque chose. On dira à lui... Souvent, vous m'avez entendu le dire. Il a quelque chose, elle a quelque chose. Je sais pas, j'aime bien lui parler. Cette personne est paisible. Et puis... Voilà. Être rempli du Saint-Esprit fera de vous des phares au milieu de l'océan. Vous savez que les phares, au-delà de leur élégance, moi j'aime beaucoup les phares. Il y a un des métiers que j'aurais aimé faire, mais je parle sans le savoir parce que je n'ai jamais fait. un des métiers que j'aurais aimé vivre une expérience dans ce métier, c'est de gardien de phare. Ça m'aurait plu. Mais pas quand il y a de la mer d'huile, quand il y a la tempête, paf, ça tape, ça tape. Ça. Mais le monde est dans la tempête, frères et sœurs. Qui aurait pensé un seul instant qu'on nous parle de bombes nucléaires, de Troisième Guerre mondiale qui a déjà commencé, mais bon, sans vraiment le dire les choses. À l'autre bout du monde, on envoie des bombes pour fournir les deux pays qui sont... Voilà, et ça brûle ici, ça brûle là. Le monde est dans la tempête et le monde a besoin de phares, d'hommes et de femmes qui ne sont pas... Ce n'est pas le phare par lui-même. Le phare par lui-même, pourquoi il tient debout? Parce qu'il est sur un rocher. Parce qu'il y a des fondations. Les fondations du chrétien ne peuvent pas se trouver ailleurs que dans la Bible. Et celui qui est le maçon divin, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ma culture, ce n'est pas ce que je veux rajouter dans la Bible. On n'a que faire. Malheur à celui qui rajoute, malheur à celui qui retire, qui retranche. Moi, je pense, frères et sœurs, que la Bible... Non, excusez de le dire ainsi, je m'en moque complètement de ce que pense celui qui va me dire... Voilà, moi je pense qu'il faut... Non, non, il n'y a pas question de traduire à ta manière, selon ton goût. C'est que me dit la Bible. Je termine. Les gens ont besoin qu'on leur rende témoignage du pas de n'importe quoi, pas de mon passé qui pourrait peut-être parfois être plus me servir de Dieu pour ma gouverne, plutôt pour ma propre gloire, plutôt que de servir Dieu lui-même. Faisons attention lorsque nous rendons témoignage. Que mon témoignage ne soit pas celui qui attire les feux de la gloire sur ma propre vie. Ne soyons pas des voleurs de la grâce. Parfois même, vaut mieux se taire sur son passé. Et lorsqu'on vous interroge, votre témoignage pourrait, étonner certains. Oh, quel homme, quelle femme, ce qu'ils ont. Mais on s'en manque de ça. Ce qui est important, c'est Jésus est venu me chercher dans ma vie. Et voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Et de quoi ont besoin les gens? Eh bien, ils ont besoin d'entendre que Dieu est ressuscité en les délivrant des liens de la mort. Dieu l'a ressuscité au verset 24 en le délivrant des liens de la mort. Quel est le pire ennemi que nous avons en tant qu'humains? Ben, c'est la mort. On l'a vu à travers la Covid, hein. Que vous ayez un gros portefeuille ou un tout petit portefeuille, que vous ayez la belle maison ou je ne sais quoi, lorsque la Covid frappait chez quelqu'un, il n'était pas question de dire « Oh, hop, hop, j'ai des actions !» Alors va voir, passe ton chemin, Covid. Non, plein de gens sont morts. Et les gens, ce dont ils ont besoin, c'est d'entendre eh bien, que Dieu, c'est celui qui donne la vie. Et combien de gens sont bien portants, physiquement, moralement, intellectuellement parlant, même des gens qui ont eu de la réussite, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont comme morts. Des gens qui sont doués même dans les études. Moi, je connais quelqu'un qui est une personne qui, dès qu'il y a des études à faire, eh bien, la personne fait ses études. Elle est brillante en plus, hein, forcément. Elle aime faire les études, mais en fait, c'est pour elle-même, parce qu'elle cherche quelque chose. Mais quant à Dieu, c'est un zéro pointé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux dire, il y a des gens, c'est très bien. Quand on a les capacités de faire des études, c'est super. Hein. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont capables. Mais pour dire que les gens, il y a un tas de gens qui ont besoin d'entendre le message de la vie en disant « Mais Jésus, il m'aime aussi, moi. Oui, il t'aime. » Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec nous. C'est pour ça qu'il est mort à la croix, pour payer notre dette, à la condition qu'on demande à Dieu qu'il nous pardonne nos péchés. Alors, que va dire l'apôtre Pierre? Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas le tout d'entendre parler en langue ici et là. Et nous? Repentez-vous! C'est écrit. Acte 2, 37. En fait, c'est changer votre vie, changer de comportement. Convertissez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, obéissance à la parole. Que personne ne s'engage pour vous dans les eaux du baptême. Moi, j'ai été baptisé quand j'étais enfant, bébé. On me l'a dit parce que c'est comme ça que je le sais, mais on pourrait même me donner un document, j'ai aucun souvenir. On s'est engagé pour moi, mais moi, je ne m'étais pas engagé pour moi. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. Qu'on baptise les gens qui ont conscience de vouloir suivre Jésus. Alors, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La condition pour le recevoir, c'est repentance, changement de vie, obéissance au baptême. Séparez-vous de cette génération dévoyée. Sauvez-vous de cette génération perverse. Séparez-vous de votre salut, séparez-vous pour votre salut des hommes, cette génération qui ont pris le faux chemin. Trop de gens vivent dans l'illusion. Ça devient une catastrophe, l'Eurovision. En veux-tu, en voilà. Les gens, mais je vous assure, les gens sont perdus. Et notre nouvelle génération, nos enfants, les petits-enfants, ils ont besoin d'avoir de vrais repères. Et non pas de gens qui... on ne sait plus qui ils sont. Des conséquences, ils acceptèrent, reçurent, ils firent un bon accueil. Ils étaient attachés à écouter assidûment l'enseignement, ils étaient persévérants dans leur marche avec Dieu. Ils vivaient en communion, d'un commun accord. Ils prenaient leur repas dans la joie, entrant ensemble, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Bien sûr, l'église de l'époque, ce n'était pas celle d'aujourd'hui. Mais à cette époque, voilà, ils vivaient, ils partageaient entre eux. Parce qu'ils étaient dans la joie de connaître le Seigneur. Il est écrit, pour terminer, Actes 2, 47, le Seigneur a ajouté chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Chaque jour. Nous puissions retrouver ces temps. Et dernier verset, Luc 11, verset 13, est écrit, « À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, pardon, à ceux qui le lui demandent ?» Si vous ne le demandez pas, alors vous ne le recevrez pas. Si vous ne le voulez pas. Mais demandez-le à Dieu. Vous n'êtes pas moins que ceux qui le sont, baptisés du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas moins. Vous aussi, vous avez le droit de le recevoir. Dans les conditions que vous soyez dans la repentance, que vous acceptiez de marcher avec Dieu, en fait, on dit, dans la parole est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh bien, les jeunes qui sont baptisés, je ne dis pas ça pour les... ce n'est pas le but. Mais avant même d'être baptisés par immersion, c'est de l'abondance du cœur qu'on voit qu'ils sont baptisés du baptême du Saint-Esprit. Donc, vous aussi, vous pouvez l'être. Peut-être que vous ne pratiquez plus le parler en langue. Renouvelez ces choses. Parce que vous l'avez toujours. La Bible dit que Dieu ne se repent pas des dons et des appels qu'il fait. Donc, quand il vous l'a donné, il vous l'a donné. Mais il faut l'entretenir. Il faut remettre du bois dans la cheminée. Sinon, le feu s'éteint. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Alors, on va prier. Et peut-être encore une fois, pour terminer, d'un commun accord, qu'on puisse prier tous ensemble. Et puis, à l'issue du culte, donc, je mettrai les barnums, tout ça, et on pourra faire le repas, préparer, mettre les tables et les chaises. Et partager ensemble. Alors, comme je le disais tout à l'heure, d'un commun accord qu'on puisse encore élever notre voix.
proche de tous les cœurs.